Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Et mon invité ce matin, c'est le plus fou, le plus rock'n'roll, le plus déjanté et enfin le plus talentueux des dessinateurs libanais, Mazen Kerbadj. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme tous les vendredis, c'est l'actualité de la bande dessinée. Avant de partir s'installer à Berlin, Mazen Kerbadj a raconté dans ses bandes dessinées sa jeunesse au pays du cèdre et plus particulièrement à Beyrouth. Beyrouth, capitale d'un petit pays tout à la fois ouvert et plein d'interdits, où il fait bon vivre quand il ne pleut pas des bombes. Mazen Kerbadj se moque de tout le monde dans ses bandes dessinées, de toutes les factions religieuses, les sunnites comme les chiites, les druzes comme les maronites. Il se moque aussi des bourgeoises de Beyrouth, de ceux qui parlent au nom des Syriens et des Palestiniens, et aussi de l'Occident qui ne comprend rien à ce grand souk qui rythme tous les jours et toutes les saisons de cette petite mosaïque qu'est le Liban. Politique, tel est le titre de cette bande dessinée que je vous recommande vivement. Son auteur Mazen Kerbadj, de passage à Paris, nous en parle aujourd'hui.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Bonjour Mazen Kerbadj. Politique, donc, c'est... Cet album qui réunit plusieurs de vos petites histoires, éditées par Actes Sud et Arte, des histoires qui ont eu sans doute une vie auparavant. Est-ce que c'était pour la presse ?
Oui, c'était surtout pour la presse, beaucoup pour la presse francophone au Liban, pas mal pour la presse arabophone qui ont été traduites donc du coup par mes soins. Et quelques trucs pour Internet ou pour la presse étrangère. Mais c'est effectivement toutes des pages qui sont parues ici ou là dans les 10 dernières années ou dans les 13 dernières années. D'une manière ou d'une autre, tout mon travail est quelque part autobiographique et je pourrais même dire c'est le monde vu à partir de mon cerveau quasiment, qui lui-même était à Beyrouth. Donc à l'époque, il y a beaucoup de choses qui se passent à Beyrouth, il y a beaucoup de choses qui se passent autour, que ce soit en Syrie ou en Israël, et puis d'autres qui se passent un peu dans le monde. Une chose donc que j'ai pas dite, c'est que ça a beau être 13 ans de dessins et de pages éparses, pour le livre j'ai redessiné tout quasiment. Et j'ai repensé le tout comme un livre. Je voulais pas que ce soit vraiment un recueil de dessins de presse, mais plutôt un livre qui a une sorte de rythme propre et de narration quasiment.
Toutes ces histoires parlent de la situation politique au Proche-Orient ces 13 dernières années, c'est-à-dire il y a eu des guerres et tout ça c'est raconté avec un humour corrosif. Vous êtes très souvent l'acteur principal de ces histoires, il y en a d'autres personnages, on va en parler, Mazen Kerbadj, mais l'idée même de cet humour noir très cynique, est-ce que ça fait partie de l'absurde d'une manière universelle que vous appliquez à la politique de votre pays, ou c'est quelque chose qui a à voir avec la culture de l'humour au Liban ?
Non, je dois dire que c'est assez mal perçu au Liban aussi, enfin mal perçu par certaines personnes qui lisent mal ce genre de truc ou qui prennent mal ce genre d'humour. Je dirais que mes influences principales sont plutôt à chercher du côté de la France, à savoir le vieux Harakiri, des gens comme Rezer ont influencé beaucoup mon travail, d'autres choses, de l'autodérision comme Gottlieb, Gossens, ce genre de choses. J'ai grandi en lisant des bandes dessinées franco-belges et je puise beaucoup là-dedans, dans la manière de faire et dans l'humour noir, corrosif, au vitriol, etc. Je pense que naturellement aussi, j'ai cette tendance un peu noire, donc un peu... on ne sait pas si on doit rire ou pleurer, en fait, ça reste sur un fil. On ne sait pas où ça va basculer, et parfois c'est pas drôle du tout, c'est vraiment triste, quoi. Parfois, j'arrive pas à franchir le pas et à faire ça, à rendre ça drôle, alors je le laisse triste. Ce qui est plutôt rare, d'ailleurs, pour des dessins d'humour... Mais ouais, je pense que c'est aussi une sorte de position où on essaye d'en rire plutôt que d'en pleurer. Hein. C'est surtout ça, quoi. Il y a très peu de choses réjouissantes dans la région, donc il faut essayer de
bah, le sens de l'humour, si.
Le sens de l'humour, voilà ce qui nous reste, quoi. Ça coûte pas cher, et puis ouais, c'est une manière vraiment de distancier ça et d'essayer d'en rire, quoi. Voilà. Il faut dire aux gens qui ne connaissent pas, enfin qui ne connaissent pas, même les gens qui croient connaître, de toute manière, ce qu'on connaît de Beyrouth ou de la région, c'est toujours à travers le prisme des médias, et puis c'est toujours réducteur et toujours plus ou moins faux, quoi. Mais bon, pour nous autres Libanais, je dirais qu'on vit jamais en état de paix, quoi. Il y a des longs moments où il n'y a pas la guerre, mais c'est toujours une sorte d'entre-deux-guerres. On est toujours dans l'attente de ce qui va se passer. À la limite, je vais dire un truc un peu gros. Quand il y a la guerre, on est plus ou moins rassuré, quoi. On sait dans quelle merde on patauge, quoi. Et quand il n'y a pas la guerre, on est dans l'expectative, quoi. On ne sait pas d'où ça va venir, d'où va commencer la prochaine et où ça va partir. Quand il y a la guerre, c'est un peu comme quand il y a des bombes, c'est affreux, on a peur, mais en quelque sorte, on sait ce qui se passe. Voilà, il y a des bombes qui tombent sur cette région-là, on sait comment réagir avec ça. Alors que quand il y a un silence pendant 2 jours, on a peur, quoi. On ne sait pas où la prochaine et où la première va tomber, et elle peut nous tomber sur la gueule. C'est des sortes de réflexes qu'on développe. Il y a une autre chose que je dis souvent, c'est quand on entend une bombe, c'est plutôt une bonne nouvelle, quoi. Si on réussit à l'entendre, c'est qu'on ne se l'est pas prise dans la gueule. Donc il y a toujours une sorte de distanciation et de manière de c'est, j'aime bien analyser ce genre de truc, quoi, parce qu'on a vécu toujours dedans. En même temps, c'est moins tragique, ça a l'air, quoi. On est un peu habitué à vivre dans cette merde. Ce qui fait qu'on peut en rire, j'imagine que pour un Français ou un Européen, c'est difficile d'imaginer comment pourrait-on rire de ce genre de truc, mais en même temps, on peut pas. C'est invivable si on n'en rit pas, quoi. Il faut pouvoir mettre une distance et rire de ses malheurs. Et aussi, comme vous le disiez, il y a beaucoup de religions, de confessions, il y a beaucoup d'interdits, de tabous. Et ça, pour moi, c'est aussi une sorte de challenge de comment pouvoir contourner ça. Et je pense que je me suis jamais auto-censuré. C'est-à-dire, je trouve des moyens de dire les choses qui font que ça passe à la censure. C'est une sorte de je suis devenu un champion sur comment naviguer juste 1 millimètre en dessous du radar de la censure et de dire ce que je veux. Donc, quelqu'un qui lit le livre, beaucoup d'amis, pas libanais, donc occidentaux, mettons, entre parenthèses, entre guillemets, c'est un mot un peu bizarre pour moi, me disent, mais tu as réussi à faire passer ça au Liban, et ils sont un peu étonnés. Et effectivement, il y a beaucoup de choses, ça tape sur la religion, ça tape sur l'alcool, le sexe, les tabous, tout ça, et je crois qu'on peut, effectivement, enfin, le Liban est en même temps beaucoup plus libéré que beaucoup d'autres pays arabes, mais il y a une censure assez sévère. Mais on peut passer outre, quoi. Il faut faire des c'est une gymnastique un peu bizarre, mais j'espère que j'y arrive, quoi. Je dis toujours, je suis avec personne, mais je suis plutôt contre tout le monde. À commencer, je suis surtout contre les miens, entre guillemets. Donc ma communauté, pour moi, c'est l'athéisme total, pur et dur, voire militant, parce que je vis dans un pays où il faut vraiment faire bouger les choses.
Alors vous dites ça, alors je vais renvoyer à une des histoires de politique. Vous êtes athée, mais de quelle origine?
Ben voilà, donc c'est ça au Liban. Donc quand on est athée, les gens veulent savoir, oui, mais tu as un athée d'origine sunnite ou chiite ou chrétienne, etc. Alors moi, du coup, je suis un athée d'origine catholique, mais bon. Mais c'est vrai qu'il faut surtout que je tape sur les miens ou les gens qui pensent comme moi. Donc, et surtout quand je suis dans un journal ou une revue, j'essaye de taper sur exactement les gens qui lisent cette revue et pas leurs adversaires. Donc, pour donner un exemple, si je travaillais à l'Humanité en France, je taperais sur les communistes et pas sur les bourgeois, quoi. Et je crois que c'est très important de faire ça et d'aller presser là où ça fait mal. Sinon, c'est un peu trop facile de juste taper. Oui, voilà, on va se foutre de la gueule des autres. Non, j'aime bien me foutre de la gueule de nous autres, quoi.
Par exemple, c'était pour quelle presse, pour quel titre de la presse libanaise que la plupart de ces histoires qu'on peut retrouver dans Politique ont été publiées d'abord, Mazen Kerbaj?
Alors, le plus ont été publiés dans L'Orient littéraire, qui est donc un supplément littéraire d'un journal, d'un quotidien de langue française, qui est L'Orient le Jour. Et c'est lu par une certaine élite francophone, bien sûr, plutôt éduquée, plus ou moins bourgeoise, d'où le fait que je tape beaucoup sur les bourgeois, quoi.
Il y a deux personnages incroyables dans votre univers, Mazen Kerbaj. Ce sont deux Libanaises, deux vieilles Libanaises, deux bourgeoises, et à travers elles, dans des scènes d'un comique vraiment corrosif, hein, c'est-à-dire ça dépasse même l'entendement de l'humour noir dont on a l'habitude, pourtant ici en France, raconte un peu tous les problèmes du Liban, c'est-à-dire les problèmes politiques, les réfugiés syriens qui arrivent, le racisme que vous traitez aussi à travers ces deux personnages.
Oui. C'est alors bien sûr. Donc je tape sur ces gens. J'ai ces deux personnages de bourgeoises ou de bourgeoises refaites, comme c'est beaucoup le cas à Beyrouth. Oui, je pense que je pousse l'humour noir un peu. Je pousse le bouchon un peu trop loin. Je vois toujours jusqu'où je peux le pousser. Souvent on rit, puis on se demande est-ce que c'est bien de rire sur ce truc ou non, c'est un peu trop hardcore, quoi.
On va prendre une des histoires de ces deux bourgeoises refaites, comme vous le dites, Mazen Kerbaj. C'est une des bourgeoises qui discute toujours avec sa copine. Et elle lui dit, je me suis rendu compte, grand scandale, je me suis rendu compte que ma bonne Philippine n'était pas du tout Philippine, mais éthiopienne. Et lorsqu'il lui dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez la renvoyer? Et l'autre qui lui répond, ben non, mais je vais quand même baisser son salaire. Et je suis sûr que ça renvoie à une réalité sociale au Liban.
Ça renvoie effectivement au fait qu'une Philippine coûterait plus cher qu'une éthiopienne. Il y a des barèmes, c'est absurde à ce que je dis. Semble être venu de nulle part ou du fond du Moyen-Âge, mais c'est comme ça, quoi. Il y a une autre réalité, c'est qu'on appelle les bonnes de maison, donc les domestiques de maison, j'appelle ça des esclaves modernes, moi, mais on les appelle une Sri-Lankaise, parce que la plus grande partie vient, ou historiquement, venait du Sri Lanka. Et donc Sri-Lankaise devient quasiment une sorte de job, quoi. C'est pas donc ça mène à des blagues du genre j'en fais une fois où ta Sri Lankaise, elle est de quelle origine? Donc c'est vraiment ça peut sembler exagéré, mais c'est quasiment vrai, quoi. C'est vraiment très proche de la réalité, en fait. Ça s'éloigne un tout petit peu de la réalité pour la montrer, mais c'est comme ça, quoi. Donc, cette histoire de Philippine qui est éthiopienne, ça pourrait arriver. Donc c'est comme vous dites, ça reste toujours très proche d'une réalité qui existe. Et le racisme ordinaire au Liban, l'esclavagisme moderne, et aussi c'est pas le propre des bourgeois, hein. Ici, quand on dit on a une domestique à la maison, c'est les aristocrates, voire une très très haute bourgeoisie. Mais à Beyrouth, c'est la classe moyenne, voire même moins que moyenne, quoi, parce que tout le monde peut se payer une personne qui vit à demeure, qui travaille depuis qu'elle se réveille jusqu'à ce qu'elle rentre dormir, qui s'occupe des enfants, qui nettoie, qui fait la bouffe, etc., et qui touche 200 euros par mois, et qui dort dans un truc d'un mètre par deux mètres. Donc c'est une réalité, c'est pas le propre des bourgeois, ni des les bourgeois et les aristocrates en auront deux ou trois. Ils auront une plus grande maison, etc., et peuvent se permettre d'avoir plusieurs Philippines ou Sri-Lankaises, etc.
Pour les massacres commis par toutes les fractions de guerre dans cette région, et notamment pour les guerres israélo-arabes ou les attaques de l'armée israélienne, vous essayez de passer par l'humour, alors que c'est un sujet, je suppose, très profondément dramatique au quotidien chez les Libanais.
Oui, c'est tragique, quoi. Pour les Libanais, pour les Palestiniens aussi, quoi. Parfois, je me dis qu'on est bien lotis à côté des Palestiniens de Gaza, par exemple. Oui, j'essaie toujours de passer par l'humour. Et pour les massacres, on disait les massacres perpétrés par plusieurs. En fait, c'est surtout perpétré par Israël. Hein, il faut pas se leurrer non plus. Bon, hélas, il y a maintenant les massacres en Syrie, les massacres. D'une guerre civile, quoi, les massacres d'un dictateur sur son peuple, etc., aidé par des forces extérieures. Mais c'est surtout les massacres d'Israël qui, c'est-à-dire, je sais pas, c'est aussi, ça reste proche de la réalité, c'est-à-dire, Israël commet des massacres et elle se fait dénoncer par la communauté internationale, et ça s'arrête là, quoi. Autant j'essaie de faire rire avec, autant c'est la seule réponse, c'est-à-dire les gens sont outrés par ce genre d'humour, mais il faudrait être outré par ce qui déclenche ce genre d'humour à la base, à savoir les massacres eux-mêmes.
نسي الوقت
Mazel Karbach, vous êtes né en 1975, c'est-à-dire avec le début de la guerre civile au Liban. Ça vous a marqué ?
Ça m'a marqué, oui, bien sûr. C'était 15 ans de mes premières 15 années étaient en guerre civile, mais ça m'a pas marqué plus que ça, dans le sens où c'était une jeunesse, une enfance, tout ce qu'il y a de plus heureux. Hein, à l'époque, quand il y a des bombes, on va pas à l'école. Hein, c'est comme une tempête de neige au Canada. Quoi. Je me rappelle prier le petit Jésus pour qu'il y ait un peu de bombes, pas trop, sans tuer personne, mais pour rater l'examen de maths de demain. Quoi. C'est des trucs. On est gamin, on se rend pas compte, quoi. Et quand on est né dedans, à un an, on demande ça c'est quoi, c'est une table, ça c'est quoi, c'est un canapé, et ce bruit c'est quoi, c'est une bombe. Et puis on assimile ça vraiment comme une chose très naturelle. Quand on a 7, 8, 9 ans, il faut pas avoir peur de toute manière, parce que les copains vont se foutre de ta gueule. Donc c'est vraiment une sorte de jeu. Puis on joue à la guerre, etc. C'est bien plus tard qu'on réalise, donc à 15 ans on nous a dit la guerre est finie, mais pour la énième fois, donc on n'y a pas cru, ça a pris 2-3 ans pour que ça enregistre dans nos esprits. Et c'était l'époque où je devenais adolescent, jeune adulte, je ne sais pas comment on appelle ça, et puis c'est beaucoup plus tard où on se dit, tiens, je savais démonter une Kalachnikov à 12 ans, quoi. C'est pas normal en fait, c'est plus tard qu'on, a posteriori, qu'on se pose des questions, mais en même temps Je ne considère pas que j'ai eu un traumatisme ou que j'ai vécu une enfance tragique. Maintenant, pour mes parents, ça a dû être une tragédie de tous les jours pendant 15 ans. Et pour tous nos parents, je ne sais pas comment ils ont réussi à vivre ça et à survivre ça. Mais vraiment, pour nous, pour ma génération, c'est abominable à dire, mais c'était normal, quoi.
C'est une musique de Mazel Karbach. Il n'est pas seulement auteur de bande dessinée, il sort politique. En ce moment, c'est une coédition Actes Sud et Arte Édition. Musicien, auteur de bande dessinée, peintre.
Oui, je le dis toujours, comme tous les Arabes, j'ai plusieurs métiers. Hein. Je dois joindre les bouts.
C'est pas avec la musique que vous gagnez d'argent.
Non, faut pas déconner non plus. Non, la musique, je fais assez expérimentale. Je sais pas, j'ai grandi en voulant être... j'ai jamais voulu être cosmonaute ou pompier. J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée depuis que j'ai 4-5 ans. Quoi. J'adorais les bandes dessinées. Et
Lesquelles ?
Surtout à l'époque, Kid Ordin, Chic Bill, les aventures de Chic Bill.
C'était vos parents qui lisaient ça ?
Non, mon grand frère et puis des cousins et puis... je me rappelle que mes parents, chaque fois que j'avais une bonne note à l'école, ils me donnaient 21 livres libanais, c'était le prix d'une bande dessinée. Puis bien sûr, Tintin, Astérix, Lucky Luke, tout ça. Enfin, tout ce qu'un jeune de mon âge aurait lu en France, quoi. C'est un peu vraiment la bande dessinée franco-belge. Je croyais d'ailleurs que tout était français, je savais pas faire la différence. Et la Saint-Nicolas, par exemple, qui est un truc très belge, pour moi, était français, quoi.
Et le dessin, c'est arrivé comment ? C'est en lisant ces bandes dessinées quand vous étiez enfant, Mazel Karbach ?
Le dessin, c'est arrivé, je pense, comme pour tous les gamins. Donc, je dessine depuis que je suis très jeune, comme quasiment tous les gamins. Et j'ai jamais arrêté, en fait. Je pense que les enfants, à un moment ou à un autre, vers 7, 8, 9 ans, commencent à s'éloigner du dessin et trouvent que c'est une sorte de jeu d'enfant, quoi. Et ils veulent s'en éloigner. Et puis... je crois que c'est commun à beaucoup de dessinateurs. C'est à ce moment-là qu'ils continuent à dessiner mieux et plus, et à ne pas prendre ça comme vraiment seulement un amusement. J'ai toujours dessiné, mais ma mère aussi est peintre, et mon grand frère dessinait beaucoup, très bien d'ailleurs, à l'époque. Et je voulais faire comme eux, quoi.
Mazel Karbach, vous vous êtes fait connaître dans le monde grâce à Internet et puis surtout grâce à un blog que vous avez tenu en été 2006, c'est-à-dire que pendant une guerre, hein, c'est-à-dire sous les bombes israéliennes, dans un Beyrouth en état de siège, vous avez fait le choix non seulement de rester à Beyrouth, mais de raconter quotidiennement ce que c'est que de rester dans une ville sous les bombes. Et ces histoires ont été éditées en France par l'association, ça s'appelait Beyrouth juillet-août 2006, et c'est comme ça que vous avez eu cette célébrité, en quelque sorte, dans le monde de la bande dessinée et même au-delà de la bande dessinée. Est-ce que c'était une envie d'être témoin, c'est-à-dire ce côté journaliste que vous avez aussi, ou c'était un défi que vous vous êtes lancé pour écrire ces histoires, pour prendre la décision de rester sur place? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là, Bazen Kerbadj?
Beaucoup de choses, oui, c'est un peu de tout. Bon, il y a une chose, c'est que jusqu'à ce moment-là, j'avais déjà fait une dizaine de bandes dessinées auto-éditées ou éditées au Liban. Et j'avais mis une sorte de point d'honneur à ne jamais parler de la guerre, parce que c'est un sujet qui m'énerve, dans le sens où nous autres Libanais, on est obligés de parler de la guerre pour être reconnus à l'étranger, etc. Et on est un peu des fruits exotiques, quoi. Et c'est un peu pareil pour un type qui vient du Rwanda, devrait parler du génocide. Un type du Biafra devrait parler de la famine, etc. Alors qu'un Allemand, on lui demanderait pas, ou un Français, ou un Italien, ou un Occidental, dans ce sens, on lui demanderait pas, il n'y a pas une sorte de tyrannie du sujet, quoi. Il doit pas correspondre à une image, il peut faire ce qu'il veut. Et c'est dans ce sens que j'ai jamais voulu, je trouvais le sujet de la guerre un peu trop facile, en gros. Jusqu'à ce que la guerre s'invite dans mon travail. Alors là, c'était plus possible. Donc c'était plus parler de la guerre de quand j'étais gamin, mais c'était un truc qui se passait, et très naturellement, dès que ça a commencé, j'ai toujours des carnets avec moi et je dessine toujours sur des carnets. Dès le premier jour, hein, dès qu'ils ont bombardé les ponts et le port de Beyrouth, j'ai commencé à dessiner ça, quoi. Je me disais, on réentend des sons qu'on avait quasiment oubliés ou qu'on avait fait semblant d'oublier. Et c'est une sorte de Madeleine de Proust abominable qui explose dans les mains et dans les oreilles, etc. Et bon, très vite, j'ai ouvert le blog et j'ai commencé à les poster. Je sais pas pourquoi exactement, pour témoigner, bien sûr, pour rester sain d'esprit. Dans un sens, je me considère chanceux d'être artiste et d'avoir pu continuer à faire mon travail, voire à le faire plus frénétiquement, parce que c'était une période vraiment très intense, quoi. Alors que 90%, voire plus, de la population était au chômage technique pendant 33 jours, et donc ils étaient impuissants. Donc on est juste devant la télé, on peut rien faire, quoi. Et moi, j'étais pas impuissant, j'étais plutôt au contraire. C'est aussi très difficile à dire, mais c'est une période créative intense, probablement la plus intense de ma vie. Jamais j'ai produit 220 dessins en 33 jours. Et en même temps, pour moi, c'était très dur d'accepter que je me demandais si cette page était bien ou non, alors qu'il y avait des gens qui mouraient, quoi. C'est vraiment une position assez difficile à tenir, quoi.
Alors, il y a une autre position assez difficile à tenir, Mazen Kerbadj. On l'apprend à la fin de l'album Politique. C'est la question que vous vous posez, ça renvoie à cet album de l'été 2006, puisque on se souvient, en tout cas les gens qui ont lu soit le livre édité par l'association, soit qui ont suivi votre blog se souviennent très bien. Il y avait aussi chez vous ce courage de rester alors que vous aviez les moyens de partir. Sauf que dans Politique, on apprend que vous avez fini par quitter Beyrouth pour aller à Berlin où vous vivez depuis quelques années avec votre famille, Mazen Kerbadj. Et à la fin de Politique, vous vous posez la question, est-ce que je peux continuer à rire de la situation politique chaotique du Liban? Est-ce que je peux toujours porter mon regard sur cette poudrière qui est le Proche-Orient en étant loin des miens, en étant loin de cette région?
Écoutez, je vais sûrement pouvoir parler, mais plus comme dans Politique. Donc le fait de tirer à boulet rouge sur le pays, je sens que j'ai perdu une légitimité. C'est-à-dire, avant, on pataugeait dans la même merde tous, et je pouvais tirer à boulet rouge sur tout ce qui bouge autour de moi et être très critique. Mais il faut savoir que quand je vivais au Liban, il y a beaucoup d'expatriés qui reviennent en été et à Noël en général, aux vacances. Ils nous font chier tout le temps, oui. Ils reviennent, ouais, mais au Canada, c'est pas pareil, tu sais, oui, mais en France, c'est plus propre, les rues sont propres. Ils sont toujours très critiques sur les différences entre le monde civilisé et le Liban. Et ça nous fait chier, ça nous a toujours fait chier. Et là, je me sens comme un de ces expatriés. Donc, je suis en Allemagne et je tire à boulet rouge sur un pays où je ne suis plus moi-même touché par la corruption quotidienne, par le racisme, par tout ça. Donc, ça me donne une position de donneur de leçons qui m'énerve, qui est inacceptable pour moi. Je ne peux pas donner des leçons alors que je ne suis pas touché par les problèmes. Donc c'est un peu comme ça que je me suis dit, il faut que j'arrête. Je peux pas continuer. J'ai sûrement parlé du Liban parce que de toute manière, tout mon travail est très autobiographique et tout mon travail passe par mon expérience. Et que je le veuille ou non, je reste un bon vieux Libanais qui vit à Berlin.
Merci Basel Kerbach.
Merci à vous.
Politique de Basel Kerbach est édité en France chez Actes Sud. Merci Basel Kerbach. Dans un instant, les informations, les petits matins continuent sur France Culture. Nous, on se retrouve lundi pour la dernière semaine de la saison. Le réveil culturel est à retrouver sur franceculture.fr pour un abonnement au podcast ou pour une réécoute en ligne. Émission préparée avec Corinne Amard, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin à la technique Benjamin Vignal. Bonne matinée et à lundi.